des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Actualité.
Alexandre Dubé.
Oh, M. Dubé est avec nous pour commencer avec des nouvelles pas pires pantoute, je pense.
Oui, c'est pas si pire, Benoît. Salut, d'abord, on est à 797 cas sur 25 133 tests. Donc, cette tendance-là, sous les 1000, se poursuit. Par contre, les autres indicateurs, 16 décès supplémentaires, 6 hospitalisations de plus, 594 au total, 4 personnes de plus aux soins intensifs pour un total de 155. Les tendances dans les différentes régions, c'est à la hausse dans le Bas-Saint-Laurent, à la baisse dans la capitale nationale. Les cas sont en hausse dans Chaudière-Appalaches, en baisse à Montréal et ça monte en Outaouais.
Bon, on va garder notre souffle, on va voir si ça va durer. Le fédéral, pendant ce temps, songe au passeport vaccinal.
Oui, parlant justement du fédéral, là, M. Trudeau est en point de presse en ce moment. Je te résume brièvement là, ce qu'il a dit. Entre autres, que 3 millions de doses de vaccins de Pfizer et de Moderna seront livrées cette semaine. D'ailleurs, au Québec, on a administré au total au-delà de 52 000 doses de vaccins dans la journée d'hier. Alors, avec ces 3 millions de doses qui vont être réparties dans des provinces, ben ça aussi, ça va venir donner un sérieux coup de main. Il est revenu également, le premier ministre Trudeau, sur cette manifestation en fin de semaine à Montréal, là, qui a réuni 30 000 personnes samedi, en disant « Respectez donc les mesures sanitaires pour le bien de vos proches, au moins. » On sait que M. Legault également n'était pas particulièrement... M. Legault aurait souhaité qu'on décerne beaucoup de contraventions lors de cette manifestation-là, mais visiblement, c'est pas du tout ce qui s'est passé, tant du côté de la Société de transport de Montréal, où on a expliqué que les inspecteurs n'avaient pas le pouvoir d'émettre des constats concernant le port du masque, ne pouvaient pas refuser des clients sans couvre-visage non plus, parce que c'est bien beau amener 30 000 autour du stade olympique, mais encore faut-il que les gens retournent chez eux. Mmh. Ça passait par du transport en commun, par des autobus également. Ça n'a pas été plus simple pour les policiers, puis je t'en parlais hier, là. Ils devaient quand même éviter les débordements, éviter que ça dégénère également. Si bien que pendant la manif, les patrouilleurs du SPVM ont remis uniquement 28 constats d'infraction pour non-port du masque. Alors, ce sont des chiffres qui continuent de faire réagir.
Et les organisateurs, M. Grenier, M. Pilon, M. Bernier, zéro, hein? Ben, rien, là. Pas de contravention, rien. Même pas une carte de Noël.
Peut-être que ça va arriver par la poste, la carte de Noël, un peu plus tard, on verra bien. Mais bref, je ferme ma parenthèse concernant cette manif-là, mais bon, comme c'est revenu au point de presse du PM, effectivement, il fallait en faire mention. Et tu le disais d'entrée de jeu, effectivement que le fédéral songe à établir une espèce de forme de passeport vaccinal, oui, qui permettrait aux Canadiens vaccinés de voyager à l'international. Et selon ce que nous rapporte Le Devoir ce matin, la ministre fédérale de la Santé a d'ailleurs confirmé à la CBC que le fédéral est d'accord avec cette idée et que des discussions sont en cours avec les autres pays du G7. Et la ministre, Patty Hajdu, précise d'ailleurs qu'on n'est pas encore rendu à s'entendre sur la forme que ça va prendre, cette preuve de vaccination contre la COVID. Mmh. À Ottawa, conservateurs, néo-démocrates pensent que la question est prématurée en raison du faible taux de vaccination au pays. Et du côté du Bloc, on se montre tout à fait favorable au concept du passeport vaccinal.
Ouais, ministre de la Santé, unilingue anglophone, évidemment, qui parle pas un maudit mot français. Comme plusieurs ministres à Ottawa choisis par Justin Trudeau.
That's why que je te cite de CBT.
Well, good, it's a good thing. on va pouvoir se faire vacciner à l'auto bientôt.
Oui.
Hein?
Comme
livraison à l'auto, ouais.
Ben absolument, tu vas pouvoir, je sais pas, est-ce qu'il y aura un service take-out en même temps avec, je sais pas moi, un cheeseburger, des croquettes, une poutine, aucune idée, on verra bien. Mais d'ici, ouais, l'heure du lunch approche, hein, je vous donne faim. Ça va se faire là, d'ici la mi-mai, Québec qui va instaurer cette vaccination à l'auto, ça va se passer à l'aéroport Montréal-Trudeau. On a vu d'ailleurs le ministre de la Santé, Christian Dubé, aller voir un peu les installations ce matin. Et ce sera le tout premier centre de vaccination de ce genre-là ici. Ça s'est vu ailleurs, là. Ça s'est vu aux États-Unis, mais ici, ce sera le premier. Et ça va permettre de vacciner 4000 personnes par jour. Québec va instaurer ce service-là avec comme objectif de faciliter la vaccination pour les personnes à mobilité réduite, pour diminuer le risque de transmission des variants aussi. Ce sera possible également de vacciner tous les membres d'une même bulle familiale même temps. Dans c'est le bon. Même véhicule. Ça, c'est une bonne nouvelle, effectivement. Mmh. Et les heures, là, de ce que je lisais sauf erreur, là, c'est de 8h le matin à 20h le soir, là, que ce sera disponible. Alors, une étape de plus, une offre de service de plus pour vacciner le plus grand nombre de gens possible, et ce sera effectif à la mi-mai.
La réaction au rapport Laurent sur la DPJ, ça ressemble à quoi?
Ben, c'est un rapport, dans l'ensemble, je te dirais, plutôt bien accueilli, celui du rapport Laurent. Madame Laurent a présenté donc les conclusions. Il y a énormément de recommandations. Là. On peut pas les passer une par une aujourd'hui. Là, on parle de 200 à peu près recommandations, 2 ans de travaux. On conclut essentiellement que le Québec doit investir massivement pour protéger ses enfants plutôt que de s'en remettre uniquement à la DPJ. Alors, Madame Laurent avait été chargée de faire la lumière sur tout ce qui se passe concernant la protection des enfants à la suite de la mort tragique de la fillette martyre de Granby. Elle, qui l'a même surnommée Tilili, pour lui donner un peu un nom dans l'espace public, et propose toutes sortes de recommandations. Ça va là de la création d'une charte de l'enfance à la modification de la loi sur la protection de la jeunesse, à la reconnaissance du rôle des organismes communautaires, à l'allègement des conditions de travail des intervenants. Bref, ce rapport-là suggère, Benoît, la mise en place d'une autre autorité indépendante qui va être chargée, ultimement, de veiller sur les droits des enfants, avec le même statut aussi que le protecteur du citoyen, que le vérificateur général. Donc, tu vois, un peu dans ce sens-là. Et ce qui a marqué beaucoup Régine Laurent, et je l'entendais dans ses différentes entrevues depuis hier, ce sont les témoignages qu'elle a reçus. Là. T'sais, il y a à peu près 300 témoignages.
Ouais, mais non, mais ça, je veux bien, là, Alex, là, mais y a-tu de l'argent pour engager du monde? Y a-tu de l'argent pour alléger le nombre de dossiers que chaque intervenante doit apporter?
Ouais. Ben ça, la balle est maintenant dans le camp du gouvernement Legault.
Ben ouais.
Il y a eu réaction de Lionel Carman, cet avant-midi, ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Mathieu Lacombe, ministre de la Famille aussi, où on a annoncé un comité interministériel qui va regrouper des gens de la justice, de la famille, de l'éducation, etc., etc., pour définir un Québec digne de ses enfants.
Oh boy.
Alors, non, mais...
Sacrément. Il se fait 2 ans, là, la petite fille de Granby est morte.
Ben oui.
Parce que le directeur de la DPJ de l'Estrie a pris sa retraite avec pension à vie. Puis lui, il a rien vu de ça. Il y a personne qui a été tenu responsable de la mort de cette petite-là. Les procès pour le père et la belle-mère, ça s'en vient au mois de septembre.
Oui. C'est long. C'est vrai que c'est long.
Sacrément, c'est long,
ça
certain.
Puis
ils sont où, les changements, depuis... Ils sont où, les changements, là? Qu'est-ce qu'on a appris de la mort de cette fillette-là?
Parce qu'on en a échappé d'autres, des enfants.
Ben oui.
Ça, je te l'accorde, c'est clair. Oui. M. Legault aussi a réagi sur Twitter en disant que nous répondrons présents à cet appel à la mobilisation, à la réalisation de ce projet de société pour définir un Québec qui est digne de ses enfants. Donc, là, il va falloir passer de la parole aux actes. Il va falloir voir l'argent, il va falloir voir les changements. Et le ministre Carman a défini 2 priorités importantes, c'est-à-dire réformer la loi sur la protection de la jeunesse et toute la notion de prévention. Ça va être un cheval de bataille important pour lui, en disant effectivement que la bienveillance envers les enfants, ce sera un projet de société.
Ouais, mais qui est responsable? Qui va être redevable? S'il y a une autre petite fille de Granby, est-ce que le directeur va aussi partir à la retraite sans être dérangé? Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Personne de redevable ni de responsable. Pas de reddition de compte. Des milliers d'employés de soutien dans les écoles en grève.
Ils sont en grève aujourd'hui, 33 000. C'est la Fédération du personnel de soutien scolaire donc qui a averti que ce débrayage-là n'est qu'un début et que d'autres grèves aussi pourraient avoir lieu si jamais les négos ne parviennent pas à une entente qui est satisfaisante pour la Fédération. Il y a les centres de services scolaires, les commissions scolaires, dans certains cas, là, qui ont opté pour la fermeture des écoles aujourd'hui. Et la Fédération avait laissé planer l'éventualité de sursoir au débrayage en provoquant une espèce de blitz de négo dans l'espoir de parvenir à une entente avec le gouvernement. Par contre, ça a échappé sur toutes sortes de questions, entre autres la précarité d'emploi, et le syndicat se dit échaudé par les négociations antérieures qui, même s'il y a eu 48 rencontres en 1 an et demi, ça n'a pas permis de donner des résultats concrets. Alors, résultat aujourd'hui, 33 000 employés de soutien dans les écoles québécoises qui sont en grève.
Bon, et le camping urbain, c'est fini?
Oui, ils ont démantelé officiellement le camping Hochelaga sur les terrains du ministère des Transports du Québec hier. On sait que les autorités ont donné suite aux avis d'éviction qui avaient été émis au cours des derniers jours. Il y a plusieurs intervenants qui déplorent cette situation-là, ce qui risque d'inciter les campeurs à se diriger vers d'autres quartiers, notamment des quartiers résidentiels. Et il y a eu des réactions, même on entendait à la télévision des réactions de la part de certains campeurs en disant « ben, on va jouer au jeu du chat et à la souris avec les policiers tout l'été. Alors, on va se déplacer, on va prendre notre caravane, on va aller, notre tente, on va aller mettre ça dans un autre terrain. Parfait, vous allez nous évincer. On va changer d'endroit parce que ultimement, on aura beau offrir à ces personnes un gîte dans un refuge, par exemple, mais ce sont des gens qui disent ne pas vouloir aller dans les refuges. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes? Ça nous rappelle un peu ce qui est survenu l'été puis l'automne passé, alors qu'il y avait eu ce campement d'une centaine de tentes en bordure de la rue Notre-Dame-Est. On avait surnommé justement ce camping, le camping Notre-Dame. On a forcé le démantèlement éventuellement parce que il y avait une question de sécurité là-dedans. Il y avait une question de sécurité. Il y a eu un incendie d'ailleurs. Oui. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés ou de morts, mais ça flambait sur un méchant temps, souviens-toi, quand il y a eu donc cet incendie sur le camping Notre-Dame, et il y aurait pu avoir des conséquences extrêmement dramatiques et tragiques dans cet incident-là. Alors, c'est un problème, une réalité qui a été exacerbée par la pandémie et qui se répète encore une fois cette année.
Très bien. Alexandre Dubé, merci. À demain.
Salut Benoît, bonne journée.